retour en onde avec notre premier invité, le pasteur Wilner Caillot. Nous allons parler aujourd'hui des anges gardiens. Alors, pasteur Caillot, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Saint-Fleur.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Bon, ça va bien, mais ça pourrait aller mieux.
Qu'est-ce qui manque?
Oui, on salue cette mise en place de la mesure de régularisation pour certains de nos travailleurs, mais la mesure touche si peu de travailleurs, donc que cela nous laisse avec une profonde tristesse dans l'âme.
Dans l'âme.
Beaucoup, beaucoup de gens qui, malheureusement, ne vont pas passer un bon Noël.
D'accord. Alors, faisons l'exercice inverse, d'accord ? Où on y va étape par étape. Les anges gardiens, pour certains auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, ça représente quoi exactement ? Ou qui ?
OK. Les anges gardiens, si vous vous souvenez, tout le monde le sait, présentement, nous sommes au plein cœur de cette pandémie. C'est la deuxième vague. Et il y avait une première grosse vague et certains travailleurs qui étaient au front, qui prenaient soin de nos patients dans les CHSLD, dans les... etc. Donc, ces travailleurs-là ont surtout été préposés aux anges gardiens. Aux anges gardiens et non debout pour la dignité. Lorsqu'on a vu comment que François Legault traitait des demandeurs d'asile qui se sacrifiaient pour le Québec, eh bien, on a saisi la balle au bon. On s'est dit, eh bien, puisqu'il les appelle anges gardiens, il les assimile aux anges gardiens, on va lui forcer la main pour qu'il fasse preuve de cohérence, donc qu'il puisse reconnaître cet effort de travail de ces préposés aux bénéficiaires qu'il appelle anges gardiens, ces gens qui donnent des soins aux aînés dans nos CHSLD ou qui travaillent dans le réseau de la santé. Donc, les anges gardiens, dans le cas qui nous concerne, ce sont surtout nos demandeurs d'asile qui travaillent dans le secteur de la santé.
D'accord. Alors, de mémoire, il y a eu deux pétitions qui ont réclamé, surtout du côté fédéral, qu'on a étendu par la suite vers le Québec, pour que le gouvernement leur donne un statut compte tenu des efforts, et même il y a eu des décès également, pour que ces gens aient un statut pour pouvoir demeurer au Canada. Alors, suite à ces deux pétitions, qu'est-il arrivé?
Donc oui, on avait initié une première grande pétition, donc debout pour la dignité, et on a récolté quelques 7 à 8 000 signatures. On avait aussi écrit une lettre ouverte au Premier ministre Justin Trudeau, et on a eu une première grande manifestation le 23 mai de cette année. Dieu merci, cela a eu tout un écho. On a eu même le Washington Post nous avait écrit, alors nous avait appelé, interpellé là-dessus jusqu'en Europe. Ils voulaient savoir c'était quoi notre en démarche, comment qu'on allait de l'avant. Et après cette grosse manifestation du 23 mai, le 25 mai, François Legault se sentait obligé de changer de ton. Alors qu'avant, il disait non, on le connaît, il est assez fermé à ces formes de souffrance des demandeurs d'asile, parce que lui, il disait que en 2017, si je ne m'abuse, oui, en 2017, lorsqu'il disait que le Québec ne peut pas recevoir toute la misère du monde, il parlait des demandeurs d'asile qui transitaient des États-Unis via le chemin Roxham pour arriver au Québec. Mais il s'est rendu compte très vite à que ces gens qui l'assimilaient à toute la misère du monde, mais ce sont eux qui viennent soulager ces misères extraordinaires qu'il y a actuellement dans nos CHSLD. Donc on lui a dit, il faut que vous reconnaissiez la force de travail de ces gens et ce qui est logique et cohérent, c'est qu'on puisse leur accorder leur résidence permanente. Donc là, on militait surtout dans un premier temps pour ces anges gardiens-là, pour ces préposés aux bénéficiaires. Parce que ce sont ces gens que nous connaissions, ce sont ces gens qui avaient contact avec nous, parce que Debout pour la Dignité, on était quand même assez nouveau sur ce terrain de militantisme, je dirais, beaucoup plus accentué. Donc, on a commencé, puis Dieu soit loué, on a eu gain de cause. Le fédéral, on a gardé contact aussi avec le fédéral, qui s'est senti interpellé. Ils ont promis qu'ils allaient répondre favorablement à nos demandes, parce qu'on précisait à mesure, c'est-à-dire dans des contextes exceptionnels, on peut créer des mesures exceptionnelles pour reconnaître l'effort de guerre, ce travail extraordinaire de nos gens qui sont en première ligne. Donc voilà, le 18 août, finalement, Ottawa, via le ministre Mandicino, déclare, affirme bien qu'ils vont mettre en place une mesure pour régulariser les travailleurs qui ont donné des soins directs à nos aînés, donc dans le secteur de la santé. Donc, voilà. Et après coup, Québec n'a pas aimé. Québec a joué de beaucoup de mesquinerie. Québec a dit non à Ottawa quant à l'ampleur des gens qu'on voulait régulariser. Donc pour accoucher finalement d'une souris, alors cette mesure, nous l'appelons une petite souris. On s'attendait peut-être à quelque chose de plus substantiel, mais Québec a réduit pour n'accoucher que d'une mesure qui ne concernerait qu'un petit groupe de travailleurs, donc ceux qui ont donné des soins directs aux gens dans nos CHSLD ou dans les résidences pour aînés. Alors qu'au départ, je précise, Ottawa voulait régulariser tous les demandeurs d'asile qui travaillaient dans le secteur de la santé.
D'accord. Sachant que le fédéral a entière compétence, parce qu'au niveau de l'immigration, les compétences sont doubles, province et le gouvernement du Canada, sachant que en matière des revendicateurs du statut de réfugié, le fédéral a une compétence entière. Alors, pourquoi ne pas faire pression de ce côté-là pour que, en dépit de Québec, on décide de leur donner le statut quand même?
Mais c'est là notre stratégie initiale. Mm-hmm. Parce que toutes nos manifestations avaient surtout eu lieu devant le bureau de circonscription de Justin Trudeau dans le comté de Papineau. Mm-hmm. Nous, toute la pression, c'était sur le fédéral. Et on n'a pas lâché le fédéral, point du tout, jusqu'à ce que le fédéral annonce hein, cette mesure pour la régularisation des demandeurs d'asile qui ont travaillé dans le secteur de la santé. Certes, le fédéral a pleine compétence pour aller de l'avant, mais nous savons aussi que l'immigration, c'est un champ de compétences partagées. C'est un champ de compétences partagé et le fédéral ne veut pas froisser Québec, ne veut pas froisser Québec, ben, ils font leur calcul politique et malheureusement, qui paye le fort prix dans cette chicane entre Québec et Ottawa, ben, ce sont ces travailleurs essentiels qui continuent de répondre présent jour après jour pour aider le Québec à pouvoir avoir ce qu'il faut pour vivre un semblant de normalité.
Mais vous savez, et pour terminer, que le fédéral est en mesure de décider et d'outrepasser le volet Québec, puisqu'elle a entière compétence. Alors, et grosso modo, comme dernière question, où en sommes-nous au moment où on se parle quant aux anges gardiens ? Parce que on a entendu aussi qu'il y avait des déportations qui se faisaient.
Oui, oui, parce que ce que ces gens, ils ont oublié, mais les anges gardiens, ils ont plusieurs visages, disait Jocelyne Bromont. Ils ne sont pas que préposés aux bénéficiaires, ils sont préposés à l'entretien, ils sont gardiens de sécurité, ils sont dans les entrepôts, ils sont chauffeurs, ils sont livreurs. Ce sont tous ces travailleurs qui ont répondu présents à chaque jour pendant la pandémie. Nous voulons qu'on reconnaissent ces travailleurs de l'ombre à leur juste valeur. Mais malheureusement, ce n'est qu'un petit groupe de gens, c'est quelques travailleurs de ce groupe essentiel-là qui pourraient se prévaloir de cette mesure. Maintenant, François Legault, il a le gros bout du bâton, ok. C'est un gouvernement majoritaire. Et mm-hmm. Il veut satisfaire une certaine base qui n'est pas pro-immigration. Maintenant, si les demandeurs d'asile, si ces travailleurs essentiels pouvaient faire front commun, ceux qui ne sont pas régularisés, s'ils pouvaient faire front commun et pour arrêter de travailler pendant peut-être un jour, deux jours, trois jours, et faire en sorte que ce gouvernement bien sente la soupe chaude, bien voit que l'économie s'arrête, qu'il y a plusieurs entreprises qui ne peuvent pas fonctionner parce que ces gens ont décidé de s'arrêter, peut-être que cela pourrait faire réfléchir François Legault. Mais comme je vois François Legault aller, et Nadine Giraud, qui malheureusement, malgré ses origines haïtiennes, mais elle n'a aucune espèce d'empathie, et c'est une souffrance terrible de la voir aller. Donc nous continuons à scander et à dire que c'est nécessaire, c'est vraiment, 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 vraiment nécessaire que la population québécoise comprenne le sacrifice de ces gens-là et la juste reconnaissance que méritent ces travailleuses et travailleurs de première ligne à statut précaire, rien de moins que leur résidence permanente, pas seulement un petit groupe, pas seulement les préposés aux bénéficiaires, mais ces gardiens de sécurité, ces gens qui sont chauffeurs, ces gens qui travaillent chez Olimel, donc ces gens qui se sacrifient, Seigneur. Mais on ne peut pas restreindre le visage des travailleurs essentiels qu'aux préposés aux bénéficiaires, infirmières, auxiliaires ou aides-soignants. Il est injuste de ne pas vouloir prendre acte du grand rôle névralgique tenu par beaucoup d'autres travailleurs essentiels, notamment les gardiens de sécurité. Peut-on vraiment croire qu'ils ne couraient aucun risque lorsqu'ils étaient responsables d'interagir directement avec toute personne qui désirait entrer dans un établissement de santé ou de soins? Mais au tout début de la pandémie, on ne leur avait fourni aucun masque alors qu'ils devaient faire signer leur registre, veiller au respect des règles, ces règles mises en place pour maintenir le protocole de sécurité ou l'établissement face à la la pandémie. Donc, on oublie que les gardiens de sécurité sont souvent appelés en renfort pour maîtriser des patients agités. Ils se retrouvent directement en contact avec nos bénéficiaires et permettre le maintien de l'ordre dans des situations de crise. Et j'en connais qui ont contracté le coronavirus.
Voilà. Il y en a Alors, même... Pasteur Wilner Caillot, malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposons. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, donc je me permettrai de vous réinviter pour en parler davantage.
Mais merci beaucoup, et disons à la communauté, il faut qu'on reste solidaire, le respect, on ne vous le donnera pas, mais c'est à nous de nous organiser pour faire en sorte qu'on aille l'arracher.
Merci beaucoup, au plaisir.
Au plaisir.